Vous êtes sur RTL.
Il est 12h30.
RTL. Le journal inattendu.
La souffrance et puis la gloire au combat.
12h30, 13h30.
Pour cet amoureux du Japon, l'harmonie est nécessaire, bien au-delà des murs de la cuisine. Thierry Marx puise son équilibre dans les arts martiaux qu'il pratique à un haut niveau. Et d'ailleurs, en cuisine ou un sabre à la main, ses préceptes sont les mêmes.
Pour vous, je voudrais dire un mot en 5 lettres, mais peut-être pas l'endroit pour le dire. Goût impeccable. Et vous glissez sur une peau de banane. On est d'accord ?
Thierry Marx est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Merci d'échanger pendant une heure votre toc de chef pour la casquette de rédacteur en chef de journal inattendu, même s'il n'est pas seulement le cuisinier doublement étoilé pour son talent et pour ses audaces que nous recevons ici. Votre parcours, votre personnalité atypique en fait de vous un cuisinier engagé, j'ai presque envie de dire un cuisinier militant. Vous allez d'ailleurs inaugurer dans quelques jours à Toulouse votre 8e école cuisine mode d'emploi pour réinsérer dans la société, en apprenant un métier autour de la cuisine, ceux qui ont été justement exclus de cette société. La formation, la transmission, voilà ce qui vous motive. Et le reportage que vous avez demandé, il sera d'ailleurs consacré. Et puis nous recevrons votre invité, la chef d'orchestre Zaya Ziwani, à la tête de son orchestre symphonique Divertimento. Une femme à qui on a souvent dit « Tu ne pourras jamais faire ce que tu veux ». Et ça aussi, je crois qu'on vous l'a expliqué lorsque vous étiez jeune. Il y aura des surprises. La musique que vous avez choisie, quelques extraits de films de votre choix. Dans un instant, ce sera le journal. Vous allez pouvoir commenter les infos si vous le souhaitez. Voilà pour le menu. Mais avant cela, j'ai envie de dire en guise d'amuse-bouche, et c'est pas le plus facile, je sais, cher Thierry Marx, il faut vous tirer le portrait.
Thierry Marx, 19 septembre 1959, né dans le quartier Ménilmontant, rue du groupe Manoukian, petite enfance au 140 rue Ménilmontant, et puis ensuite les quartiers périphériques du Bois-l'Abbé et des Boulereaux. Artisan cuisinier, j'en suis fier, ça a été une porte de sortie pour moi. J'ai eu la chance de passer par la formation des compagnons et des compagnons des Devoirs Unis, d'abord en tant que pâtissier, puis ensuite j'ai continué mon cheminement, et aujourd'hui... chef et chef d'entreprise, parce que il a fallu continuer à s'épanouir et je dirais pas à la tête, mais j'ai la chance d'avoir une équipe de aujourd'hui presque 600 personnes.
C'est important de rappeler d'où vous venez, cette extraction sociale.
Oui, c'est important de se rappeler d'où on vient, et puis de l'extraction sociale d'où l'on vient, et surtout d'un merveilleux quartier du 20e arrondissement de Paris, qui était un quartier de la diversité. Je crois que c'était 105 nationalités différentes, on grandissait ensemble, on partageait ensemble, et je continue à être convaincu que la diversité est une force.
Eh ben la diversité, on va en parler, ça sera évidemment un des sujets de cette émission, notamment tout à l'heure avec votre invité Zaya Ziwani. On commence par les infos évidemment. L'actualité de ce samedi 25 mai, dominée par l'enquête après l'attaque au colis piégé de Lyon et la chasse à l'homme pour tenter de retrouver le suspect. Le procureur de la République tient une conférence de presse en ce moment même. Il explique notamment que la charge a été déclenchée à distance. Il n'y a toujours pas de revendication. Vous l'entendrez en tout cas, le procureur de la République. Et puis on ira sur les lieux de cet attentat avant de prendre des nouvelles des blessés. L'acte 28 des Gilets jaunes, mobilisation attendue à Amiens aujourd'hui. Amiens, c'est pas un hasard, c'est la ville natale d'Emmanuel Macron. À Paris, des rassemblements non autorisés sont également prévus, mais le préfet annonce une réaction ferme en cas de débordement. L'Europe en week-end électoral, 427 millions d'électeurs au total, mais on ira dans un village du Lot-et-Garonne où ils ne sont que 840 électeurs. Et on verra où le scrutin ne passionne guère. Le foot, la fin du championnat. Caen jouera en Ligue 2 comme Guingamp. Dijon jouera les barrages face à Lens. Et puis Cannes, rideau ce soir sur le festival. Le jury est en conclave. Le temps, Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Bonjour tout d'abord. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bonjour Patricia.
C'est toujours très instable avec encore quelques pluies cet après-midi près des Pyrénées. Il pleut depuis hier matin avec des cumuls localement assez importants. Le département de l'Ariège reste donc placé en vigilance orange crue et risque d'inondation jusqu'en début début d'après-midi. Puis cet après-midi, les averses vont se multiplier. Elles vont reprendre un petit peu partout. Elles seront localement fortes et parfois orageuses entre le Massif central et le Nord-Est. Alors que dans l'Ouest et près de la Manche, là, le temps est plus calme pour cet après-midi. C'est sec avec de belles périodes ensoleillées. Puis les températures restent plutôt douces. On attend jusqu'à 24 degrés cet après-midi à Marseille et Montélimar, 23 degrés à Paris et Lyon, 21 degrés à Lille, 20 degrés à Brest, 19 à La Rochelle, mais c'est toujours un petit peu frais, sous l'instabilité en particulier dans le sud-ouest au Pays Basque avec seulement 17 degrés cet après-midi.
Alors je vous dis merci Patricia, et puis je vous dis au revoir parce qu'à 13h, c'est Thierry Marx qui sera Monsieur Météo.
Le journal inattendu sur RTL.
Gérard Collomb, le maire de Lyon, s'est rendu ce matin auprès des personnes hospitalisées après avoir été blessé hier dans l'explosion d'un colis piégé rue Victor Hugo près de la place Bellecour dans le centre-ville. Vous savez qu'un homme est activement recherché depuis hier. On le voit sur les images portant une casquette sombre, également un manteau sombre et poussant son vélo. Des images divulguées dans l'appel à témoins lancé par les enquêteurs. Et pour l'instant, c'est vrai que ses revendications, ses motivations restent mystérieuses. Toutes les pistes sont ouvertes, toujours aucune revendication, mais quand même plusieurs informations importantes dévoilées par Rémi Hess, le procureur de la République de Paris, qui vient de s'exprimer. On l'écoute.
Les premières constatations effectuées sur place ont permis de trouver sur le sol, à proximité même du lieu de l'explosion, des vis de 2 cm, des billes en métal, 7 piles LR6, un circuit imprimé, un dispositif de déclenchement à distance. À l'instant où je vous parle, cet acte n'a donné lieu à aucune revendication. Un premier appel à témoins a été lancé hier soir avec un numéro d'appel, le 197, et les témoignages reçus sont en cours d'exploitation. Sont au nombre de plusieurs dizaines, ces témoignages. De nouvelles photographies de l'individu vont être très prochainement diffusés. Tous les moyens sont actuellement mis en œuvre pour parvenir rapidement à l'identification et à l'interpellation de l'auteur des faits. Dès hier soir, ce sont 90 enquêteurs et 30 techniciens de la police technique et scientifique qui ont été mobilisés. Je veux ici saluer l'importante mobilisation des services d'enquête et leur remarquable réactivité.
Voilà, Rémi Hetz, le procureur de la République de Paris, pour ses premières informations. On retrouve sur place à Lyon, rue Victor Hugo, Julien Fautra pour RTL. Julien, le quartier est toujours sécurisé ?
Eh bien, de moins en moins, Vincent. Je ne vois que 2 policiers autour de moi en ce moment, rue Victor Hugo. Le périmètre de sécurité a été levé tôt ce matin. Tous les signes d'un retour à la normale, c'est ce que veulent d'ailleurs les habitants à qui j'ai parlé, mais aussi les commerçants. Leur représentant à la mairie du 2e arrondissement de Lyon, c'est François Royer.
Il faut reprendre le travail, il faut reprendre notre vie. Voilà, il faut que la vie continue. Bon, alors en étant certainement un peu inquiet, en étant peut-être un peu plus vigilant, en se disant tiens, pourquoi là un paquet, ceci, cela qui traîne, une vigilance accrue.
Pour autant, le suspect est toujours recherché. Voilà un motif d'inquiétude pour les habitants. Cette traque, depuis que l'homme a échappé aux caméras de surveillance de la ville, la préfecture vient d'annoncer et de préciser qu'elle densifie la sécurité autour des manifestations, contrôle routier, renforcement du dispositif Sentinelle à la recherche du suspect.
L'explosion a fait 13 blessés, dont 11 hospitalisés. On a des nouvelles, Julien ?
Les nouvelles sont bonnes, Vincent. Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a rendu visite ce matin aux victimes dans 2 hôpitaux de la ville.
Je viens de l'hôpital Éloi Hériot où j'ai vu 3 personnes légèrement blessées pour 2 d'entre elles. L'une qui va être opérée, mais je crois que les blessures restent relativement bénignes. Donc par rapport à ce qu'on craignait hier, moi j'étais dans l'avion qui revenait de Tokyo quand le commandant de bord m'a annoncé cette explosion à Lyon. Évidemment, on s'attendait au pire.
État de santé rassurant donc pour les 13 blessés, blessures légères. 5, Vincent, sont encore en observation à l'heure où je vous parle. Quelques interventions tout de même nécessaires pour extraire les éclats liés à l'explosion.
Julien Fautra à Lyon pour RTL. Vous avez, j'imagine, suivi cette affaire depuis hier soir ?
Depuis hier soir, bien sûr. Et puis depuis quelques années maintenant, hélas, parce que ça perturbe beaucoup la vie des Français. Donc il faut rester vigilant. C'est vrai que rien n'est gagné. gagner dans ce domaine.
Autre information, c'est l'acte 28 des Gilets jaunes aujourd'hui. Alors sachez qu'en région, l'épicentre de la contestation aujourd'hui, c'est Amiens, la ville natale d'Emmanuel Macron. Dispositif de sécurité sérieusement renforcé donc à Amiens. D'autant que le chef de l'État est attendu ce soir ou demain au Touquet où il doit voter pour les européennes. Puis à Paris, le préfet de police déplore le retour du principe des manifestations non déclarées. D'ailleurs, il annonce une réaction ferme en cas de débordement parce que sur les réseaux sociaux, plusieurs points de rendez-vous ont été fixés comme l'esplanade des Invalides, le boulevard Haussmann et l'avenue Foch. Juste avant de marquer une pause, un regard sur ce mouvement des Gilets jaunes. Comment vous l'avez appréhendé ?
Je veux dire, je crois que je l'ai appréhendé comme beaucoup de Français. On n'est pas à l'aise. On se sent pas bien. On se dit pendant des années, j'ai écouté le discours politique, comme je l'ai dit, je suis né en 59, je suis né dans des communes qui revendiquaient la protection du prolétariat, c'est comme ça qu'on nous signifiait. Et finalement, à vouloir protéger le prolétariat, à vouloir pour certains défendre une idée d'un capitalisme beaucoup plus libéral, eh bien ces deux gros blocs ont créé quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler le précariat. Et le précariat, c'est pas simplement économique, c'est le manque de projet. Et je crois que ces gens qu'on a vus dans la rue, nous ont révélé ça. Et ils disent, ben voilà, nous aussi, on a le droit d'avoir des projets. Et je crois que ça a été entendu. Je crois que des choses sont mises en place pour que on puisse continuer à faire en sorte que dans un pays comme la France, on puisse s'épanouir.
Et parmi ces choses qui sont mises en place, vous n'êtes pas en reste. Et ça, on aura évidemment l'occasion d'y revenir. On marque une pause. Et dans un instant, on évoque les européennes à la campagne. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL avec Thierry Marx et Vincent Parisot. Le journal inattendu de Thierry Marx avec Vincent Parisot sur RTL.
Et un week-end d'élections européennes, vous le savez, au total 427 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Certains ont déjà voté, comme les Britanniques, les Néerlandais, les Tchèques ou les Irlandais. Pour les Français, évidemment, comme pour 21 autres pays, ce sera demain, avec un fort taux d'abstention redouté. Et d'ailleurs, à une toute autre échelle, la faible participation est également prévisible. Je vous propose d'aller dans un village du Lot-et-Garonne, à Buzet-sur-Baïse, 840 électeurs. Voyons comment s'organise un scrutin dans un petit village, avec détermination certes, mais pas vraiment avec passion. Reportage Denis Grandjou.
Oui, dans la petite boutique de prêt-à-porter, juste à côté de la mairie, discussion impromptue entre trois amis.
Les campagnes électorales, on en a fait, afficher la moitié de la nuit, autant elle que moi. Et là, il n'y a plus de conditions. Et moi, j'ai perdu toute foi, là.
Cette foi électorale, Cathy, elle, semble l'avoir gardée.
Je vais aller voter, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas encore pour qui je vais voter, ce que je vais voter.
Qu'est-ce qui va vous décider, finalement? Ça sera au dernier moment?
Alors, j'ai une petite idée, mais elle n'est même pas arrêtée encore.
À l'autre bout du village, dans la supérette, Patrick, le gérant, explique ne pas avoir assisté à des discussions enflammées sur le futur scrutin.
Les gens, ce qui les intéresse, c'est surtout quand c'est local, les élections municipales, etc. Ça les intéresse. Mais là, des européennes, ils se sentent pas tellement intéressés, voire concernés.
Quant au maire, Jean-Louis Molinier, il a tout essayé ces dernières semaines pour mobiliser les électeurs.
Un petit village, on rencontre dans les commerces, on demande aux gens, exprimez-vous si vous avez du mécontentement ou au contraire si vous êtes pro-européen, faites-le savoir.
Dans le village, lors du dernier scrutin européen en 2014, le taux d'abstention frôlait les 54%.
Denis Grandjou a buzé sur Baïse dans le Lot-et-Garonne, donc demain journée spéciale européenne sur RTL et en point d'orgue à partir de 18h, la grande soirée autour de Marc-Olivier Fogiel. Vous irez voter demain, Thierry Marx?
J'irai voter, bien sûr. Je suis un Européen convaincu.
Vous votez à toutes les élections?
Je vote depuis un certain temps à toutes les élections, oui. Mais vraiment sur l'Europe, je trouve que l'Europe c'est important. Et franchement, on nous a pas parlé de projet. Il y a un papier qui est sorti, je crois que c'est dans le Nouvel Obs, je peux me tromper, pardon, mais qui disait c'est la valse des égaux. Et il y a eu beaucoup d'ego et peu de projets démontrés. Et voilà, je crois qu'il faut de la conviction pour être un Européen et une conviction du quotidien. Et ça c'est pas, il n'y a pas eu ce relief là dans cette campagne.
En tout cas, vous êtes profondément
européen, bien sûr. C'est-à-dire que je vis aussi une partie du temps à l'international et je me rends compte de la puissance d'Europe et par rapport à de grands États.
Quand vous allez en Asie, par exemple,
bien sûr, on voit arriver la Chine aujourd'hui, la Chine, l'Inde. Il va falloir avoir un bloc européen solide. avec une Europe sociale aussi construite, qui n'a, à mon avis, pas été faite.
Et puis, autre événement à suivre sur RTL, mais alors là, dès ce soir, ce sera la cérémonie de clôture du Festival de Cannes.
RTL, en direct de Cannes.
Au programme ultime montée des marches, palmarès, début de soirée avec de nombreux invités. Entre 18h30 et 20h30, ça va se passer sur RTL. Avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors le jury est enfermé à double tour.
Oui, depuis le milieu de la matinée, dans une villa, nous dit-on, sur les hauteurs de Cannes. Téléphone portable confisqué pour les 4 hommes et 4 femmes autour du réalisateur mexicain Iñárritu, quel président. Si tout va bien, vers 14h après le déjeuner, le palmarès devrait être établi. Le temps de rappeler ceux qui ne sont pas rester pour qu'il soit à temps à partir de 19h15, prêt pour recevoir ou pas les prix. Je peux vous dire que Catherine Deneuve et Sylvester Stallone seront sur scène ce soir pour remettre des prix. On nous dit que Deneuve remettra la Palme d'Or. Vous vivrez donc tout ça en direct de 18h30 à 20h30 avec également Anthony Martin et Michael Lefebvre.
Merci Stéphane Boutsock en direct de Cannes pour RTL. Thierry Marx, alors on vous a vu une fois, je crois, dans une série télé. Avec Mimi Mathy.
Oui, heureusement qu'elle était là pour m'aider en tant qu'acteur, parce que j'ai quand même... J'ai jamais accepté. Parce que j'ai une profonde admiration pour les acteurs, j'en connais quelques-uns. Ils ont une capacité avec le texte, à jouer avec les mots, qui est formidable. Mais j'ai pas cette compétence. J'aimerais l'acquérir, mais je ne l'ai pas. Donc je me contente d'être observateur.
Voilà, et parfois juré, on vous a vu dans Top Chef, et donc d'ailleurs dans Joséphine Ange Gardien, où vous étiez également dans ce rôle de juré. C'est parti pour ce journal inattendu. Tiens, et pour commencer, un grand classique. Vous avez du pain, vous avez du beurre. Alors replongeons-nous 38 ans en arrière. Diva de Jean-Jacques Benex, à la manœuvre Richard Bohringer, qui nous rappelle que le beurre ne doit pas être trop dur.
La baguette. Le couteau. Pas trop mince, mais pas trop épais. La mie. Ah, c'est tout un art. On nous envie dans le monde entier pour ça. Nous autres, les Français. Regarde. Tu me calmes. Il y en a qui se défoncent à la colle d'avion, à la lessive. Enfin, des trucs compliqués, quoi. Moi, mon satori, c'est ça. Le zen dans l'art de la tartine.
Le zen dans l'art de la tartine.
C'est merveilleux, parce que c'est du Benex, Bohringer exceptionnel, son satori. Et alors, il dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit, il y en a qui se défoncent avec des choses compliquées, de la colle d'avion, de la lessive. Moi, mon satori, c'est l'art de la tartine. Ouais. Et je trouve ça exceptionnel.
Bah alors, il rappelle qu'il faut de bons ingrédients et de bons outils. C'est tout simple, mais c'est aussi la base.
Exactement. Mmh. Et puis, il faut être accompagné. Il y a un écosystème qui est autour. Et là, dans ce film, il y avait l'écosystème de Catalani, la Wally, c'est ce chant du premier acte qui est formidable et qui fait
partie. Qui l'a rendu célèbre d'ailleurs, que Diva a rendu célèbre.
Bien sûr, parce que c'était un opéra en deux actes, de quelqu'un pas très connu, mais ça permettait aux gens aussi comme moi d'entendre parler d'art lyrique par un divertissement qui était le cinéma et le cinéma d'auteur.
Alors l'art de la tartine, j'ai envie de dire, tout est parti de là. Je crois que gamin, vous rêviez de devenir boulanger en traînant devant la boulangerie Ganachot.
C'est complètement ça. Je suis né 140 rue Montand, enfin rue du groupe Manoukian plus exactement. Ouais. Et je passais tous les jours devant ce monsieur Bernard Ganachot qui faisait du pain et qui avait mis un four en vitrine. Et ça me fascinait, moi qui n'étais pas très bon à l'école. Je me disais si ce gars y arrive comme ça. Et puis il y avait ce phénomène d'avoir des horaires décalés, de travailler quand les autres dormaient et d'avoir une petite vie à soi comme ça. Et puis ça m'a inspiré effectivement pour aller vers ces métiers de la boulangerie, de la pâtisserie.
Parce que vous avez ouvert il y a trois ans, boulangerie Thierry Marx à Paris dans le 8e. Finalement, c'est comme un retour aux sources.
C'est mon camion de pompier, c'est quand on est gamin. Mais c'est vrai que c'est un retour aux sources. Et puis, le pain, c'est peut-être le plus beau symbole de la gastronomie, de l'eau. Une farine de qualité, une autre qualité, un savoir-faire d'artisan, et vous avez un produit exceptionnel.
Justement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un produit de cette boulangerie, un plat du mandarin oriental, ou du 58, donc la brasserie de la Tour Eiffel, ou encore de l'Étoile du Nord, Gare du Nord? Qu'est-ce qu'il y a de commun, à part le nom de Thierry Marx?
La difficulté dans tout ce que vous évoquez, une prestation, quelle qu'elle soit, de la boulangerie à un restaurant étoilé, c'est de donner de la mémoire et de l'éphémère. C'est ça à manger. C'est pas nourrir un estomac, remplir un sac. C'est donner de la mémoire à de l'éphémère.
Pour qu'on s'en souvienne.
Et quand vous vous souvenez de l'arôme du pain, de sa mie, d'une tartine, on s'en souvient et on y revient. Et ça crée du lien social. Énormément de lien social.
Alors Thierry Marx, on va marquer une pause et ensuite parler de votre parcours assez sinueux. Mais avant cela, tiens, quelques notes d'une chanson que vous avez choisie. Pourquoi Angie? Et pourquoi les Stones?
Premier amour, probablement. la cité des Boulereaux, le soir, un tourne-disque, une copine. Il n'y a rien dans la piole, on regarde les lumières s'éteindre et s'allumer dans la cité. On s'emmerde dans le béton.
C'est magique.
Mais il y a la chanson d'Angie qu'elle me fait découvrir.
Les Stones, évidemment, premier choix musical de Thierry Marx, mais...
Une autre époque, hein, 4 minutes, ouais, enfin, oui. Une chanson, on ne fait plus ça.
Ah non, c'est terminé, ça.
C'est terminé.
En tout cas, lui, il a toujours la pêche, hein, ouais, malgré son opération du cœur, il s'est montré. Et à 72 ou 73 ans, il a encore les doigts dans la prise. Une courte pause, on retrouve Thierry Marx dans son journal inattendu.
Le journal inattendu de Thierry Marx avec Vincent Parisot sur RTL. Le journal inattendu de Thierry Marx avec Vincent Parisot sur RTL.
Ça, pour le coup, effectivement, ça tranche avec Angie. Et pourtant, c'est aussi votre choix musical, ce chant de l'armée française. Marie-Dominique, parole de Pierre-Marc Orlan sur l'Indochine, on l'a compris. Et c'est pas un hasard, évidemment, parce qu'à 19 ans, alors que vous avez votre CAP de pâtissier chocolatier en poche, obtenu chez les Compagnons du Devoir, vous vous engagez dans l'armée comme para dans l'infanterie de marine à Carcassonne. Qu'est-ce qui s'est passé?
Rien. L'envie de l'engagement, c'était de l'envie de quitter le quartier. Donc, on pourrait se rappeler des affiches de l'époque. C'était si tu veux voir du pays,
engage-toi.
Mais cette chanson, elle est pas née de ça. Elle est née de ma petite enfance, d'un oncle qui avait servi sur la RC4 en Indochine, ouais. Qui a eu un retour difficile. Qui avait connu les deux conflits indochinois et le conflit algérien, et il avait une bande de copains. On allait près de la rue de Bagnolet dans un petit bistrot qui fermait la boutique le soir. Ça jouait au 421, ça sentait l'anisette, et comme je pense que l'anisette devait faire son effet à un moment donné, ça se mettait à chanter cette chanson. Et puis cette chanson, je l'ai partagée avec d'autres copains qui ont aussi une relation avec l'Indochine, parce que leur maman avait épousé un soldat qui servait en Indochine et s'était retrouvé sur le sol français, et puis ces Indochinois dont on ne savait pas d'où ils venaient vraiment, eh bien un jour je me suis retrouvé à partager cette émotion de cette chanson, ouais. Avec d'autres copains avec qui je pratique du sport et qui eux en ont fait une version plus rock, ouais. De Marie-Dominique,
oui, oui,
on
mais...
s'est retrouvé autour de Marie-Dominique, ouais. Et pour moi c'était mon oncle, et puis mon oncle parlait jamais de l'Indochine, il parlait toujours de ce que ça représentait, du fleuve, quand il parlait de l'Algérie il parlait du Sahara, il y avait cette notion au voyage, et cette chanson qui est pas vraiment un chant militaire d'ailleurs, qui est un chant qui est presque un chant d'amour.
C'est pas le groupe La Souris Déglinguée qui avait
exactement.
Fait la version de Marie-Dominique, ah, oui effectivement.
Et je me suis retrouvé avec un copain avec qui on partage le kendo comme passion, et qui lui avait fait cette version Marie-Dominique, la souris déglinguée.
Vous avez parlé du retour difficile de votre oncle, je crois, oui, après l'Indochine, mais vous, quand vous partez au Liban, que vous faites la guerre du Liban en tant que casque bleu, et je crois après également au sein de Phalange Libanaise, Votre retour, il est aussi compliqué.
Oui, c'est compliqué parce qu'on perd des, on perd un peu ses repères. Je saurais pas le définir. Très honnêtement, ça appartient au passé. À un moment donné, c'est qui vous attend au retour. Et s'il n'y a rien qui vous attend au retour, c'est compliqué.
Juste une question pour vous, Thierry Marx, question de l'invité de la semaine dernière, Valérie Bonneton. Elle était à votre place. On a beaucoup parlé de légumes, avec un reportage notamment sur Alain Passard. Elle adore ça, la cuisine. Et justement, elle voulait vous poser une question.
Bonjour Thierry Marx, c'est Valérie Bonneton. Alors écoutez, j'admire le métier que vous faites. Je pense que j'aurais adoré aussi pouvoir le faire. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme stage intensif pour progresser? J'adore cuisiner.
Alors voilà, elle n'a pas besoin de réinsertion sociale pour le coup, mais elle a envie de progresser.
Elle a envie de progresser, c'est reprendre les bases de la cuisine, redonner du sens à ce qu'on cuisine. Et je pense qu'en 12 semaines, elle pourrait intégrer une de nos écoles très facilement, ou de faire un stage dans une de nos maisons. On serait très heureux de l'accueillir et de commencer sur cette cuisine 80-20. 80% végétal, 20% protéines animales. Prendre conscience que manger, c'est un acte citoyen, un acte social. Et ça reste un acte fort qui date de l'Antiquité grecque. Plaisir, bien-être, santé.
Et on va en parler évidemment de ces écoles. Vous êtes là pour ça, Thierry Marx, rédacteur en chef du journal Inattendu. Il est 13h d'ailleurs sur RTL. Et là... Il est 13h02.
Le journal inattendu de Thierry Marx.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Voilà, avec un petit peu de retard. Donc l'actualité de ce samedi dominée par l'enquête après l'attaque au colis piégé de Lyon et la chasse à l'homme pour tenter de retrouver le suspect. Le procureur de la République de Paris s'est exprimé il y a moins d'une heure maintenant. Il a expliqué notamment que la charge avait été déclenchée à distance. Toujours aucune revendication. D'autres photos du principal suspect vont être publiées dans la journée. L'acte 28 des Gilets jaunes, aujourd'hui, mobilisation attendue notamment à Amiens, la ville natale d'Emmanuel Macron. À Paris, des rassemblements non autorisés sont également prévus, mais le préfet annonce une réaction ferme en cas de débordement. L'Europe en week-end électoral, 427 millions d'électeurs au total. Pour la France, la métropole votera demain, mais la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, la Polynésie, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon le font dès aujourd'hui. Le football, la fin du championnat de Ligue 1. On sait que Caen jouera en Ligue 2, comme Guingamp. Dijon disputera les barrages face à Lens. Et puis Cannes, rideau ce soir sur le festival, le jury est en conclave. Rendez-vous dès 18h30 sur RTL pour la dernière montée des marches et la cérémonie du palmarès. Et puis pour le temps, eh bien, Monsieur Météo, c'est Thierry Marx, voyez-vous.
La météo pour cet après-midi, un temps encore très instable du sud-ouest aux frontières de l'est et dans le nord-est avec des averses et des orages localement forts, parfois accompagnés de grêles. Le temps sera plus calme dans l'ouest et près de la Manche avec de belles périodes ensoleillées. Les températures pour cet après-midi de 17 à 24 degrés, 17 au Havre, 20 degrés à Brest et à Cannes, 21 à Dunkerque, 23 à Paris et 24 à Marseille.
Sobre, efficace, voilà, taillé au cordeau comme on dit, hein. Un peu comme vos plats. Parfois d'ailleurs.
C'est vrai.
Tiens, écoutons ça.
Le journal inattendu de Thierry Marx avec Vincent Parisot sur RTL.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
Alors Piaf, vous aviez aussi choisi la chanson en anglais, hein, de la version anglaise de Je ne regrette rien. Pourquoi ce choix de cette icône de la chanson française?
Pour plein d'histoires personnelles, ma grand-mère... On est né dans le 20e, il y a une place Édith Piaf, ouais. Donc j'ai été biberonné à la voix d'Édith Piaf, et puis un jour j'ai découvert que Édith Piaf avait chanté en anglais.
Ouais.
Moi qui ai mis tellement de temps à apprendre l'anglais que j'ai trouvé ça formidable et j'adore, je ne regrette rien. Puis Je ne regrette rien, c'était aussi souvent chanté en famille. On chantait pas très bien, mais c'est resté comme quelque chose qui marque un traceur fort. Moi je dis toujours qu'il faut être des libellules dans la vie, ne pas reculer, ne rien regretter. Donc faut faire.
No regrets. No, I will have no regrets. For the grief.
Bah, ça claque bien en anglais aussi quand même.
Oui, et puis elle passait partout. Ouais. Je crois que les vibrations de sa voix, ça m'a toujours troublé.
Alors, retour sur votre envie de faire l'école hôtelière quand vous étiez tout jeune, Thierry Marx. Je crois qu'on vous a rétorqué, c'est pas pour vous.
Oui, alors faut bien replacer dans le contexte, c'est-à-dire que l'école primaire, je comprends. Ma grand-mère me dit toujours, et mon grand-père qui me disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Faut apprendre à lire, à écrire et à compter, comme ça on ne volera pas. Donc j'ai compris un peu la mécanique de ce pourquoi aller à l'école. Ensuite, le collège s'est complexifié. J'ai donc très mauvais élève, mais très très mauvais, vraiment décrocheur.
Et vous avez décroché à quel âge ?
13 ans. Et faites si bien qu'à un moment donné, vous vous retrouvez face à l'orientation. Et évidemment, issu de ces quartiers, on était à la Cité des Bois-Lavé, au Boulereau. Quand je dis, bah, je sais pas pourquoi j'avais rêvé de l'école hôtelière, parce que je portais des costumes, ça m'impressionnait. Je dis, je voudrais faire l'école hôtelière. Et le monsieur a ri par cette demande, me dit, mais c'est pas pour des gens comme vous. Et ma maman et mon papa qui disaient, bah, si l'État français dit ça de toi, c'est que c'est vrai. Et finalement, on m'avait proposé la mécanique générale. Alors nous, on piquait des mobilettes et on les démontait sans savoir toujours les remonter. Mécanique, on comprenait. Ouais. Mais général, on n'avait pas compris. Ouais. Donc j'ai décroché scolairement. Et merci ces banlieues où le sport était gratuit. Et merci au judo français de m'avoir proposé un cadre éducationnel.
Alors on va en parler de tout ça, évidemment, des banlieues du judo. Mais quelque chose me dit que votre invité a dû aussi entendre cette phrase, genre chef d'orchestre, c'est pas pour vous. Vous avez invité Zaya Ziwani. Alors avant de l'accueillir, dites-nous juste pourquoi.
Oh ben Zaya, d'abord l'artiste, voilà l'artiste,
grande chef d'orchestre,
la chef d'orchestre, et puis dans nos quartiers, on le sait tous les deux, il nous faut des rôles modèles. Il faut pas des gens qui soient que gentils, il faut des gens qui soient vrais. Si tu veux le faire, alors on le fait. Dire fait rire, faire fait taire. Donc on fait. Et puis elle fait meilleur grand bien. Moi j'ai été passionné par des mots, j'observe ça de façon très bienveillante. Mais dans Zaya, je retrouve le propos qu'on doit avoir dans nos quartiers quand on veut aider quelqu'un. C'est pas simplement d'être gentil, c'est d'être vrai. Si tu veux, tu peux, on y va ensemble.
Et c'est d'agir. Bonjour Zaya Ziwani.
Bonjour.
L'orchestre symphonique Divertimento, vous l'avez créé il y a 20 ans maintenant. Parce que sinon, on ne vous proposait rien, c'est ça ? Vous n'aviez pas la possibilité qu'on vous le propose, alors vous vous êtes dit, je vais le faire ?
Oui, exactement, c'est un petit peu dans la même logique que Thierry, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient très ouverts sur la culture, c'est eux qui m'ont appris à être curieuse, qui m'ont appris à découvrir la musique symphonique particulièrement, et quand je vois là, je me suis passionnée, j'ai pu faire un instrument, et quand j'ai souhaité devenir chef d'orchestre, tout le monde me disait, non, mais dans le milieu musical, ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas fait pour les femmes, c'est pas du tout un métier pour les femmes, donc concentre-toi sur tes études. Alors bon, il s'avère que moi j'étais plutôt bonne élève, donc je me suis en effet concentrée sur mes études, mais j'avais toujours ce souhait de devenir chef d'orchestre. Et c'est vrai que mes parents m'ont aussi appris qu'il fallait être persévérant et que souvent peut-être que je serais à une place où on ne m'attendrait pas, parce que voilà, avec peut-être beaucoup d'idées reçues qu'on peut avoir sur les banlieues, sur les jeunes, sur les femmes aussi. Et donc, je me suis quand même accrochée à cette idée. J'ai eu la chance de rencontrer un grand maître de la direction d'orchestre, Sergio Chilibidac, qui m'a appris à devenir chef d'orchestre. Mais bon, dans un milieu qui est encore très dans ses traditions, dans ses conventions, dans ses résistances aussi, le fait d'être jeune, c'était pas évident pour pouvoir avoir l'occasion de diriger les orchestres, d'être une femme encore plus. Alors je me suis dit, bah, il faut créer ses propres opportunités. Et donc c'est comme ça que j'ai créé l'Orchestre Divertimento il y a 20 ans maintenant, à la fois pour avoir l'occasion de diriger, pour me prouver que j'étais capable de le faire, et puis prouver aussi au monde musical qu'une jeune personne et qu'une femme pouvaient diriger.
Votre handicap, à leurs yeux, aux yeux des autres, c'était votre genre, c'est-à-dire d'être une femme, ou c'était vos origines kabyles?
C'est peut-être un petit peu détroit. Alors souvent on m'a dit oui, est-ce que le fait en effet d'être une jeune femme, une jeune personne, une femme, d'être d'origine algérienne, c'était un handicap. Pour moi, j'ai toujours pris ça comme au contraire une grande richesse, et ça m'a toujours amené à justement réfléchir à quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au 21e siècle. Et donc ce projet d'orchestre Divertimento, c'était à la fois pour diriger, mais aussi pour apporter aussi des nouvelles idées dans ce milieu symphonique. Et donc voilà, cet orchestre, ça m'a permis aussi de pouvoir décliner ses nouvelles idées. Mais Louis, le fait d'être une femme et le fait d'être jeune, ça a été quand même au départ quelque chose d'assez compliqué parce que on ne donne pas l'opportunité. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de femme qui était nommée à la tête des orchestres nationaux en France. En 20 ans, il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Donc voilà, ça prouve que c'est vraiment aussi des grosses résistances et que les femmes, on doit aussi nous-mêmes se prendre en main.
En tout cas, justement, le lundi 10 juin, vous donnerez un concert à la Philharmonie de Paris, concert sur les musiques de la Méditerranée.
Oui.
Hein, justement, pour ces 20 ans de l'orchestre Divertimento. Vous emmenez la musique classique ailleurs, dans les MJC de banlieue, également dans les prisons. Je crois que c'est arrivé. Et ça aussi, c'est un point commun avec vous, Thierry Marx, parce que vous êtes allé et vous y allez d'ailleurs régulièrement dans les prisons. J'imagine qu'il se passe quelque chose de différent dans ces moments-là, non ?
Oui, et en même temps, je pense que parfois, on a tendance à préjuger de la capacité de l'ensemble des personnes dans ces territoires-là, peut-être à aimer la musique classique. Et en fait, tout le monde aime. C'est rare. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « je ne veux pas ». D'autant que quand on est en face d'un orchestre, ça procure une énergie qui n'a rien à envier aux grands concerts de rock. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, des belles émotions. En fait, je pense qu'au contraire, justement, il faut aller sur tous les territoires. Et moi, la musique symphonique, je la conçois vraiment comme voilà, une culture commune qui doit être partagée à Clichy-sous-Bois, à Stein, mais aussi à la Philharmonie de Paris. Donc, et que ça doit être pouvoir vivre dans tous les territoires. Donc ça a été vraiment pour moi une identité forte de ce projet d'orchestre. Et justement, de pouvoir avoir des diversités de publics très différentes. Mmh. Alors pour ça, justement, il faut aussi passer du temps, aller à la rencontre des personnes, des enfants, leur faire découvrir, leur donner envie. Et donc voilà, et au travers du propos artistique, j'ai aussi voulu, et ça va être un peu aussi le propos de ce concert à la Philharmonie de Paris, c'est à la fois qu'on puisse partager les grandes musiques symphoniques du grand répertoire, mais aussi montrer comment aussi elle s'est inspirée, les grands compositeurs se sont inspirés des cultures populaires de France, mais aussi d'Espagne, d'Algérie. Et donc ça va être un beau concert avec beaucoup de diversité, et à la fois dans le public, sur le plateau et dans les musiques.
On a hâte, ce sera le lundi 10 juin, allez-y, concert à la Philharmonie de Paris. Question pour vous deux, pourquoi passer autant de temps à vouloir transmettre, à rendre ce que vous avez été finalement chercher à la force du poignet et de la volonté, même s'il y a eu des rencontres? Pourquoi ne pas être un petit peu égoïste? Parce qu'après tout, il y en a des cuisiniers ou des chefs d'orchestre qui se moquent quand même éperdument de transmettre.
Non, très honnêtement,
vous n'en connaissez pas?
J'en connais probablement, mais je n'ai pas apporté ce genre de jugement. Mais ce que je crois juste dans la transmission, c'est que c'est environnemental.
C'est-à-dire,
si vous n'aidez pas les autres à s'épanouir, on va s'entretuer. On va s'entretuer. Donc il faut, et la force de ce que dit Zaya, c'est de dire que l'art diffuse, fait naître le désir d'aller vers l'autre. Et de, peut-être que je suis pas bon à l'école, mais peut-être qu'une initiation à la musique me donnera envie de devenir bon à l'école, etc. Donc l'art est un support extrêmement important. Mais effectivement, si vous n'aidez personne à s'épanouir, eh bien la fraternité n'est pas de porter l'autre. Elle est d'aider l'autre à s'épanouir et à trouver son projet d'épanouissement. C'est ça qui me paraît important.
C'est en fait vraiment les mêmes raisons. C'était cette notion de solidarité qu'on doit avoir et de fraternité. Et c'est vrai que je pense que sur nos territoires, on a besoin aussi de donner aux personnes l'opportunité de vivre des belles choses et aussi de pouvoir s'épanouir et de développer le potentiel intérieur. Et je pense que c'est aussi par des projets qui sont exigeants. Et aujourd'hui, moi, tous les jours, je rencontre des jeunes qui nous demandent d'être exigeants avec eux. Donc, c'est vraiment cette exigence-là qui est au cœur du travail, de la transmission. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister aussi de rendre visite aux ateliers de Thierry, où c'est aussi la notion d'exigence qui est au cœur de tout ça. Et je pense que c'est aussi une forme de respect qu'on peut avoir en direction de ces populations. Et c'est une autre façon aussi de pouvoir transmettre des valeurs, transmettre aussi des savoirs et que de leur permettre de s'épanouir. Donc voilà, il faut continuer à avoir des projets qui continuent à être exigeants et portés par des gens qui portent beaucoup d'attention à ça.
Zaya Ziwani, l'orchestre philharmonique Divertimento, et donc grand concert lundi 10 juin à la Philharmonie de Paris sur les musiques de la Méditerranée. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Thierry Marx. On marque une courte pause et puis on se retrouve tout de suite dans le journal inattendu de Thierry Marx avec tout d'abord évidemment un reportage, mais pas seulement, à tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL
avec Thierry Marx et Vincent Parisot.
Il y en a qui ont le cœur si large qu'on y entre sans frapper.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.
Thierry Marx est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Ah, Robert Dalbon, hein.
Extraordinaire.
Dans Un idiot à Paris.
Un idiot à Paris, mais on l'a tellement connu dans Les Tontons Flingueurs, dans énormément de répertoires où il y avait évidemment cette signature d'Audiard, et Audiard qui vous donne envie d'apprendre la langue française. Mmh. Cette langue dite verte, mais puisée dans tous les grands, les grandes plumes françaises. Mmh.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. Et si on modifie la réplique, on peut dire je suis ancien combattant, macroniste et cuistot. C'est de dire si dans ma vie j'en ai entendu des conneries, ça fonctionne aussi ?
Non, ça fonctionnerait pas dans ce sens-là. D'abord, j'ai trop de respect pour les anciens combattants pour employer ce genre de propos. Mais et puis macroniste, bah oui, moi j'ai suivi Emmanuel Macron quand il était candidat à la présidence de la République. Je suis pas gêné par ça, et je suis toujours pas gêné par ça. Et je peux même dire droit dans les yeux aux gens qui me disent pourquoi tu as suivi, parce que dans son premier discours, il n'y avait pas volonté d'opposer des camps, de dire que une droite ou la gauche avait tort. Il fallait se retrousser les manches et de se dire on va trouver des solutions, pas des coupables. Eh bien, ce propos, je l'ai entendu et j'ai suivi. Trouver des solutions, ne cherchons pas des coupables. Et je crois que la France a besoin de trouver des solutions. Voilà, alors c'est dur, il faut aider ceux qui ont du mal à trouver des solutions et j'en suis convaincu.
Et vous y participez, notamment à travers la formation, à travers vos écoles, et vous avez demandé un reportage sur ce thème. Il est signé Armel Lévy, on l'écoute.
Donc on est dans l'atelier des matériaux souples au CFA des Compagnons du Devoir de Pantin. C'est la section des podo-orthésistes qui sont en train de préparer des dessus de chaussures. Ah, ça sent le cuir, ça sent la colle, ça sent plein de choses, ouais.
Anatole Veil vient de terminer son tour de France chez les Compagnons du Devoir. Il forme les apprentis au CFA. Il leur apprend les savoir-faire pour être cordonnier, bottier, podo-orthésiste, mais aussi le savoir-être en entreprise.
Au niveau du savoir-vivre et du savoir-être, derrière, ça va être cultiver certaines valeurs de partage, de solidarité, d'honnêteté, des choses comme ça. Et c'est du bon sens, mais c'est super enrichissant, parce que ça permet vraiment de se rendre compte assez rapidement de quels sont les enjeux du monde du travail, de passer d'un état d'étudiant à un état de salarié compétent au bout de quelques temps.
Parmi les élèves d'Anatole, Gabriel, à 20 ans, il prépare son CAP en alternance, 6 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Aujourd'hui, il est apprenti chez un podo-orthésiste à Marseille. L'an dernier, il était à Vitrolles et l'année prochaine, il partira à Lyon. Il apprend beaucoup de ce tour de France des entreprises.
Moi, au sein de ma première année, oui, c'était un modèle. C'est quelqu'un qui m'a donné tout l'amour qu'il avait pour le métier et c'est grâce à lui que je suis là et que je veux faire ça toute ma vie. En vrai, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez social, donc je cherche pas à avoir vraiment une personne à qui parler, à qui quoi, mais le tuteur, ça aide à, par exemple, en plein projet, d'un coup, on est bloqué, on va le voir, il est plus pour nous aider que dire, bah, débrouille-toi, cherche tout seul ou quoi. Et non, là, il voit qu'on a envie et que, du coup, il nous pousse jusqu'au bout, quoi. C'est magnifique quand on a envie de continuer de faire ça et, du coup, d'être ensuite à sa place, quoi, d'être maître de stage et faire rêver les autres jeunes, quoi. Et c'est le même cas avec notre maître d'apprentissage, hein. Notre maître d'apprentissage, il est là pour nous apprendre justement les choses qu'on voit pas en entreprise et, ouais, c'est deux personnes qui font qu'on a envie de faire ce métier-là, quoi, vraiment.
Un amour du métier qui s'est traduit par 7 médailles d'or pour les élèves d'Anatole au concours des meilleurs apprentis de France cette année.
Quand j'ai vu les jeunes monter sur scène avec leurs médailles, émus et souriants sur scène, dans un sens, même s'ils ne me l'ont pas dit en face, moi je le prends comme un merci. C'est un beau cadeau qu'ils me font aussi, quoi.
Il y en a un autre qui croit beaucoup en l'apprentissage, c'est Guillaume Gomez. Le chef des cuisines du Palais de l'Élysée accueille 4 apprentis pâtissiers cuisiniers.
Parce que je suis issu de l'apprentissage, donc je crois en l'apprentissage. C'est un engagement qu'on a auprès d'un jeune, auprès d'une école. Ce qu'il faut, c'est l'accompagner petit à petit. Et je veux être aussi un exemple pour tous ces jeunes apprentis, de leur montrer qu'aujourd'hui, l'apprentissage peut être l'outil qui vous permet de choisir votre vie. Croyez-moi, ça paye toujours et c'est, à mon sens, le dernier ascenseur social.
En France, chaque année, plus de 70 000 jeunes qui préparent leur CAP ou Bac Pro rompent leur contrat d'apprentissage en cours d'année, pas loin d'un sur trois. Mais quand ils s'accrochent, 7 apprentis sur 10 trouvent du travail à la sortie.
Ça aussi, c'est effectivement important quand même. 7 apprentis sur 10 trouvent du travail tout de suite.
Immédiatement, et c'est l'apprentissage, c'est formidable. Là, on a parlé des Compagnons des Devoirs, mais qu'est-ce que c'est qu'un apprenti ? C'est apprendre auprès d'eux. Mmh. Apprendre auprès de quelqu'un qui vous inspire. Et la finalité, c'est de devenir un homme libre. Mmh. Il y avait une phrase d'un compagnon, quand j'étais sur la maison des Compagnons de Montauban, qui disait « salaire honnête ou repos ». Du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. Et il disait, quand ma compétence ne convient plus à cet employeur, je le quitte. Mmh. Je suis un homme libre. Mmh. Et c'est ça, cette force du savoir-faire, du savoir-être, et de pouvoir prendre sa vie en main. Et ça, l'apprentissage est une très très bonne école de transmission, parce qu'on transmet de la passion, on transmet aussi... l'apprentissage, c'est pas une mise en conformité de quelqu'un. C'est de donner cette capacité à devenir un homme libre et indépendant.
Thierry Marx, vous l'avez compris, est le rédacteur en chef du journal Inattendu. On boit ses paroles pour encore quelques minutes sur RTL. À tout de suite.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Thierry Marx avec Vincent Parisot sur RTL.
Avec, c'est la tradition, Thierry Marx, un invité surprise. On l'accueille. Bonjour, invité surprise.
Salut.
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu juste sur ce salut?
Non, j'ai en plus, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai une mauvaise audition.
Alors, peut-être un indice, si vous écoutez la publicité beaucoup, c'est lui qui l'a dit. Si je vous dis non, ça alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Thierry Marx pour le mettre sur la voie, cher invité surprise?
J'aime beaucoup ce que tu fais à manger.
Bon, vous connaissez très bien, on va dire que le judo, ça crée des liens, ouais, et que je pense qu'il serait ravi que vous fassiez un petit tour à Tokyo.
C'était dit. J'adore.
Et c'était dit qu'il a dit.
Il m'énerve parce que c'est un surdoué. Ouais. Mais c'est génial.
C'est vrai que le judo, ça crée des liens.
Vous êtes
ceinture noire de judo.
Oui. Mais ça crée des liens. C'est une école de vie incroyable. Teddy, on parlerait bien mieux que moi, mais d'abord, on transpire ensemble. Ouais, je crois que ça crée des liens. T'en chies ensemble. T'as mal. Tu passes. Tu vas tenter quelque chose à droite, à gauche. Enfin, il faut laisser parler Teddy parce que c'est lui le champion.
Non, mais moi je voudrais juste que Teddy me dise un mot parce que c'est ça l'idée de l'invité surprise. Un mot de vous. Un mot de Thierry Marx.
Thierry, c'est quelqu'un comme c'est très difficile de le décrire parce qu'il a tellement de qualités. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer déjà aux alentours des ateliers, mais aussi dans sa cuisine. J'ai pu voir comment il menait ça. Franchement, c'est quelqu'un qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de côtoyer au quotidien parce que je trouve que c'est une belle personne, c'est une personne atypique qui a de belles choses à raconter. Et je peux vous dire que sur le Japon et sur les arts martiaux, il peut en dire beaucoup plus que moi.
Alors, l'objectif, c'est une troisième médaille d'or aux JO de Tokyo l'an prochain. Ça y est, vous êtes reparti avec cet objectif, Teddy.
Ah oui, c'est l'objectif principal de ma carrière actuellement. Je suis reparti sur les chemins d'Asie parce que ça me tient à cœur d'aller chercher cette troisième médaille d'or olympique à Tokyo pour l'histoire de mon sport et puis parce qu'il y a un Japonais qui détient trois médailles d'or et j'ai envie de le détrôner.
Et il va la gagner cette troisième médaille
d'or. Oui, moi je suis convaincu. De toute façon, j'ai toujours été à Teddy depuis Londres. J'observe ce qu'il fait, j'ai toujours suivi ce qu'il faisait. Il a un très beau judo et je crois qu'il nous a fait rêver dans un judo chez les lourds. On ne connaissait pas bien le judo des lourd et il a un très beau judo. Moi j'adore Teddy, ça c'est clair.
Voilà, il vous adore et vous vous adorez mutuellement. Merci beaucoup Teddy Riner de ce petit coup de fil, clin d'œil et surprise. Merci à vous, merci, Thierry Marx, d'avoir été au cœur de ce journal inattendu. Tout de suite sur RTL, vous allez retrouver Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel, consacré aujourd'hui à Elton John. Bon week-end.
RTL. Le journal inattendu.
Si je te dis...